19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bienvenue. Vendredi, quel plaisir de se retrouver dans un vendredi. Eh bien, certains sont chanceux puisqu'ils se retrouvent. Eh bien, comment dans les vacances de la Toussaint. Bonnes vacances les amis, hein. Profitez-en bien. Allez, c'est parti, nous démarrons donc cette dernière jour de la semaine pour vous proposer quelques sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, mais aussi également des invités qui ont marqué la journée. Alors, on va parler de Jean Castex, le Premier ministre qui annonce une aide de 100 euros. Est-ce que c'est suffisant pour ceux et celles qui touchent 2000 euros net par mois? Alors, certains ont répondu, mais c'est du foutage de gueule. Je vous promets, j'ai lu ça. Donc, écoutez, on va en parler. Ensuite, le ballon d'or. Le jugement lié à la sextape peut-il compromettre les chances de victoire de Karim Benzema? On en parlera. On reviendra sur nos invités avec un grain de France, justement, avec un invité qui viendra réconcilier, tenter de réconcilier la population. Police, population et les jeunes. Il va tenter ce qu'on appelle un rapprochement de jeunes. Et puis tout à l'heure, celui qui a fait parler de lui toute la journée, c'est Thierry Paul Valette. L'incontournable et indiscutable icône des Gilets jaunes, en tout cas l'un hein, des icônes de Thierry Paul Valette, eh bien il s'est fait remarquer avec une arrestation mouvementée. On en parlera tout à l'heure puisque on en parlera justement, ça concerne le carburant. Et puis le face-à-face, comme toujours, tout à l'heure Jean-Claude Fitchikaya face à Nadir Kaya. C'est parti, c'est maintenant et c'est plus que jamais. En toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h02, l'invité actu.
Les informés, l'interview.
Avec Reda Didi. Bonjour Reda Didi.
Allô.
Oui, bonjour Reda Didi, comment ça va?
Bonsoir Adil, merci de l'invitation, ça va très bien, et toi?
Ben merci bien. Vous êtes le fondateur de Graines de France. Graines de France, un mot, qu'est-ce que c'est? Graines de France, c'est une association qui intervient auprès des jeunes.
C'est ça, c'est une association qui intervient auprès des jeunes et des moins jeunes, et avec deux objectifs. L'une, c'est de rapprocher des groupes qui se parlent que très peu, et l'autre, c'est de former des leaders pour pouvoir permettre à la jeune génération de rêver un peu plus.
Alors, on va en parler justement de rêver un peu plus, dossier, justement, concernant un des sacrés chantiers. Il s'intitule « Ma cité va créer ». C'est un jeu de mots avec « Ma cité va craquer ».
On l'a pensé un peu comme ça, absolument. Mais
Avec votre projet, dites-moi Reda Didi, vous allez tenter de faire un rapprochement des jeunes avec la police. Pourquoi ça vous préoccupe aujourd'hui?
On fait tous le constat qu'il y a une difficulté, qu'il y a un fossé qui parfois se creuse avec les policiers, notamment dans les quartiers populaires. Et nous, l'idée, c'est pas d'apporter ou de prôner une bonne parole, hein, c'est de permettre aux jeunes générations de développer leur esprit critique et au sortir de nos ateliers de se poser plus de questions que des réponses sur la question de la relation police-population et de ne pas rester sur l'essentialisation.
Alors justement, parlons-en. Ça consiste en quoi? J'ai vu certains champions du monde comme Abel El Kandili, des écrivains, des auteurs, des éducateurs sportifs vont tous s'associer à vous, à votre projet pour justement retisser ce lien. Alors ça consiste en quoi, mon cher Reda Didi?
Alors en fait, on reçoit les jeunes, on reçoit un groupe de jeunes, en gros qui va de 40 à 80 jeunes par journée. Ils arrivent et ils sont divisés en 4 groupes. Et les 4 groupes passent sur 4 ateliers. Un atelier d'écriture, où en fait on part sur des scénarios un peu improbables, type en 2050, un président a décidé de réformer la police n'existe plus, il vous arrive un problème, qu'est-ce que vous faites? Et là on fait écrire les jeunes. Avec un auteur que vous avez cité qui peut être Mabrouk Rachidi, mais on a plein d'autres auteurs qui travaillent avec nous sur le sujet. Mmh. On a un autre atelier qui est l'atelier avec les champions du monde, où l'idée c'est de revenir un peu sur le cadre et l'importance du cadre et des règles.
Et pas n'importe quel champion du monde, en full contact.
Non, c'est ceux qui connaissent un petit peu savent que c'est le Zinedine Zidane de la boxe pied-point.
C'est ça.
C'est vraiment le meilleur qu'on ait pu avoir, qui a été champion du monde en boxe française, en taille, en kick. Vraiment, il a
16 fois champion, hein, 16 fois.
16 fois, absolument.
C'est le plus titré de l'histoire d'ailleurs.
Un palmarès non égalé. On a cosmopolite aussi, hein, qui a été champion du monde de boxe anglaise. Il y a aussi un jeune qui remplace parfois Abel et qui fait de très très belles prestations. Et donc eux, l'idée, c'est vraiment de remettre un peu le cadre et d'expliquer que eux, sans cadre et sans arbitre, en fait, ils sont champions de rien du tout. Et que la société a besoin de ça pour pouvoir évoluer. On a des acteurs qui, eux, sont plus dans la improvisation théâtrale et qui vont mimer des scénettes avec les jeunes pour qu'ils puissent un peu extérioriser ce qu'ils peuvent vivre dans le rapport police-population. Et on a enfin un dernier atelier qui est la libération de la parole, où là, on invite vraiment le jeune à se libérer et à nous dire tout ce qu'il pense de la relation police-population.
Et donc, ça, c'est bien, ouais.
Et les groupes, donc, circulent sur les quatre ateliers toute la journée, donc 1h30 par atelier. Et puis, à la fin, on arrête à 16h. Et là, on reçoit des policiers au niveau local avec lesquels on échange à bâton rompu. Et la seule règle, c'est le respect de l'interlocuteur.
J'ai vu que là, vous aviez des partenaires, quand même, comme le ministère de l'Intérieur, des associations, des policiers. Vous avez réussi à les convaincre ?
Ça n'a pas été facile au début, mais enfin, le ministère de l'Intérieur a toujours été partant hein, sur le sujet. Après, les policiers, ça a été un peu difficile au début de les convaincre. Et puis maintenant, on en a plein, en fait, qui veulent rentrer dans l'aventure et qui sont très partants à pouvoir participer, à pouvoir justement venir au contact des jeunes pour expliquer leur métier et aussi comprendre quelle peut être la vision qu'ils peuvent donner par leur pratique de travail.
Reda Didi, justement, vous, avec Graines de France... Alors, j'ai bien vu que vous allez permettre... L'objectif, c'est quand même 80 jeunes par jour. Hein.
C'est ça.
De 10, entre 10 et 17 ans.
C'est ça.
Alors, c'est où précisément ? Parce que je vois que votre cible, c'est les quartiers populaires, mais il va y avoir une ville laboratoire, par exemple ?
Alors, on a plein de villes laboratoires. On a tourné tout cet été, on a fait Sarcelles, on a fait Louvre, on a fait Fos, on a fait Champigny-les-Vignes, on a fait Avignon... On repart là à partir des petites vacances là. On repart à Avignon, on refait Chantoux-les-Vignes, on va à Creil, on va à Reims, on va à Plaisir. Donc on n'a pas de territoire où on fait des expérimentations. On est un peu sur tous les territoires et on essaie de tisser du lien. Et après il y a des villes avec lesquelles on va plus loin et on fait la version 2 de Ma Cité va créer. Et notamment là on est sur un projet avec Sarcelles. Sur ce sujet
à Sarcelles. Vous avez comment le rapport avec les jeunes ? Comment réussir à les convaincre ? Comment réussir à justement les encourager pour faire franchir le pas en direction justement de ce lien que vous souhaitez créer avec la police ?
En fait, les jeunes de 17 ans, c'est des diamants bruts. Hein. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est qu'il y a pas de, il y a très peu d'enfants à problème. En fait, il y a des encadrants qui savent pas à gérer, mais il y a très peu d'enfants à problème. Et du coup, à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est leur donner des activités qu'ils peuvent aimer et pouvoir leur permettre de sortir de leur quotidien en ayant des outils qui soient pas directement, frontaux de relations police-population, mais en passant par ou du sport, ou par la télé d'écriture, ou par le théâtre, donc par un biais détourné qui leur permette d'appréhender cette relation de façon beaucoup plus apaisée pour arriver à la fin, à 16h, à un débat où on est plus sur de la construction que de la confrontation.
Et est-ce que le regard change justement des deux, dans les deux sens d'ailleurs, police jeune, jeune police, quand ils s'apprennent à mieux à se connaître ? Est-ce que finalement, vous avez vous le sentiment, Reda Didi, que le regard change, qu'il y a une évolution des mentalités ?
Alors, sur des actions ponctuelles comme ça, l'impact, on voit les choses changer et sur des projets à long terme, on les voit encore plus changer. Mais j'invite vos auditeurs et vous qui on est de la même génération, tous ceux qui ont vécu avec un peu de police de proximité, savent bien que quand on humanise la fonction, les choses se passent toujours de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Donc oui, nous on a, les études d'impact qu'on a commencé à faire montrent que quand ils participent à ce type d'atelier, leur vision change sur l'approche qu'ils peuvent avoir de la police. Parce que le premier lien qu'on commence à créer est ensuite poursuivi par les structures, les associations, les services jeunesse avec lesquels on travaille, qui vont poursuivre ça dans le temps.
Reda Didi, justement, quelles sont les principales villes que vous allez parcourir ?
Alors, pour La Toussaint, on sera sur Creil le 5 de mémoire. On sera sur Plaisir le 5 novembre. Je vous le fais en décalé. On sera sur Creil le 4 novembre. On sera sur Reims le 2 et 3 novembre. On part sur Avignon pour le 27 et 28 octobre. On sera sur Chantoux-les-Vignes le 26 octobre.
Chantoux-les-Vignes le 26 octobre. Vous les avez, ces jeunes entre 10 et 17 ans. C'est des collégiens, c'est des décrocheurs scolaires, c'est des lycéens. Quel est le profil de ces jeunes que vous ciblez, mon cher Reda ?
Alors nous, on n'a pas de cible particulière. C'est des lycéens, c'est des décrocheurs, c'est parfois des collégiens. C'est des gens surtout qui vont au service jeunesse, qui sont suivis parfois par des éducateurs, qui appartiennent à une association et qui veulent bien, pendant une journée, participer à nos ateliers, d'abord pour rencontrer des rôles modèles, type ce que vous avez cité, c'est-à-dire des Abel El Kandili, des Mahmoud Rachidi, des acteurs, et puis ensuite, éventuellement, créer un dialogue avec la police. Donc on a tous ces profils, et c'est des profils qui veulent, pendant l'instant d'une journée, sortir de leur banalité quotidienne.
J'ai vu notamment dans Graines de France que vous souhaitez, évidemment, avec l'aboutissement d'une pièce de théâtre, c'est cela ?
Il y a pas l'idée d'une pièce de théâtre, mais il y a l'idée de permettre à
un spectacle peut-être.
C'est ça. Il y a des scénarios qui sont écrits. C'est-à-dire qu'on leur fait écrire des nouvelles. Et on s'est rendu compte quand on a fait le tour de France sur l'écriture de ces nouvelles qu'il y avait des pépites, qu'il y avait vraiment des gens avec des capacités d'écriture extraordinaires. Et là, on est en train de s'interroger si en effet on peut pas sortir un recueil de ces petites nouvelles.
Reda Didi. Disons-le clairement, est-ce que on est en pleine campagne politique, est-ce que c'est des choses, des sujets notamment que vous abordez avec la jeunesse, entre ceux qui ont l'âge de, évidemment, d'aller accomplir leur devoir civique, est-ce que vous sensibilisez les jeunes à aller s'inscrire justement dans les listes électorales?
Alors nous, on n'est pas du tout, même si ce sujet-là est pas neutre, on n'est pas du tout politique, on est totalement apolitique. C'est pas du tout notre sujet, même si on se rend bien compte, et je m'en rends bien compte à titre personnel, que la question de l'abstention sera un gros sujet lors de ces présidentielles. Mais nous, là, c'est pas du tout notre sujet. Nous, notre objet sur la question de la relation police-population, c'est vraiment de retisser du lien et de permettre à des jeunes qui ont parfois une vision caricaturale de ce que peut être la police, de s'ouvrir et de repartir de nos ateliers avec plus de questions que de réponses.
Reda Didi, qu'attendez-vous précisément de l'aboutissement de ce projet entre le rapprochement jeune-police, police-jeune ?
Ce que j'aimerais, c'est que les uns et les autres sortent des caricatures et sortent des positionnements, sortent des postures, pour pouvoir s'appréhender à nouveau, et les quartiers populaires soient aussi sécurisés que les autres territoires.
Est-ce que vous avez envie de dire un mot à celles et ceux qui vous écoutent, notamment, partout en France ?
Oui, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein. On vous a donné les dates, on pourra vous les fournir par un petit message. Allez sur le site de Graines de France, toutes les dates y sont, et on aura un grand plaisir à vous retrouver sur place.
Graines de France, vous en êtes le fondateur et vous êtes le responsable de ce projet, justement. Ce projet qui a vu le jour, et j'imagine que vous le portez avec, évidemment, plein d'enthousiasme, et vous vous donnez combien d'années d'ailleurs pour concrétiser et parcourir toute la France, Reda ?
Alors là, on est parti sur un projet qui, j'espère, va s'inscrire dans la durée, mais il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas. Et je suis pas seul, hein, j'ai une équipe, je veux dire un mec comme Abel El Kandili, ça fait 30 ans qu'il travaille sur le sujet de la relation police-population. Les plus anciens de vos auditeurs, s'ils connaissent le commissaire d'Andrea, et connaissent les différents actions qu'il a pu mener, notamment avec la RAPP. Abel El Kandili était déjà dedans. Hein. Donc on est une équipe avec un mec comme Mahmoud Rachidi, avec le Théâtre de l'Opprimé. C'est toute une équipe qui est derrière ce projet, avec une réelle volonté, c'est d'améliorer la relation police-population. Et je voudrais aussi remercier les politiques qui nous accompagnent là-dessus, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose.
J'imagine que vous avez, c'est pas de l'autofinancement, vous avez des subventions qui accompagne votre projet ?
Absolument.
D'accord, donc vous êtes soutenu par l'État ?
On est soutenu par l'État, on est soutenu par les collectivités, on est soutenu par un peu de fonds privés. L'idée, c'est d'arriver à un moment à des autofinancements sur le sujet. Mais on sait bien que le sujet est un peu touchy, du coup, tout le monde n'est pas forcément... ne voit pas forcément l'intérêt de mettre des moyens sur ce sujet-là. Alors que moi, je pense que c'est un sujet d'intérêt général qui devrait concerner tout le monde.
Ma cité va créer, c'est le projet que vous portez, évidemment. Et vous allez, on l'aura compris, parcourir la France avec votre projet. Vous êtes le fondateur de Graines de France. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Reda Didi.
Merci Adil.
Et longue vie. Hein.
Merci à vos auditeurs.
Merci à vous. Longue vie à Ma Cité va créer justement. Belle initiative, bravo. 19h14, on va se retrouver dans une poignée de minutes avec la vedette justement qui s'est fait remarquer, Thierry Paul Valette. Qui lui, vous savez quoi, s'est fait remarquer tout nu avec un panneau en faisant référence à la hausse du carburant. Oh, ben, on va en parler dans une poignée de minutes. À tout de suite, restez avec nous, ne bougez pas. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, les informés, c'est aussi au 01 53 48 3000, les auditeurs ont la parole. Mais pour l'heure, nous allons accueillir un autre invité, justement, qui s'est fait remarquer avec un carton, un panneau, pour interpeller Emmanuel Macron. Nous allons tenter de comprendre.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Thierry Paul Valette, l'icône, celui qui a aussi fait parler de lui en plein gilet jaune, c'est le gilet jaune aussi. Thierry Paul Valette, bonjour. Bonjour Thierry Paul Valette. Allô ?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, justement, Thierry Paul Valette, d'abord, merci d'être avec nous. Alors, vous avez voulu vous faire remarquer, d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes, Thierry Paul Valette, parce que on vous connaît à la radio, on vous a invité à plusieurs reprises.
Bien sûr.
Évidemment, je vous ne présente même plus. Vous incarnez les gilets jaunes, vous incarnez justement une parmi ces nombreuses figures, mais vous êtes quand même principale figure des gilets jaunes. Thierry Paul Valette, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Alors, mon état d'esprit, il est le même qu'il y a trois ans, déçu pour la situation du pays, déçu pour beaucoup de Français. Mais vous savez, je vais quand même revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Je me suis fait remarquer. Malheureusement, non, c'est Emmanuel Macron qui s'est fait remarquer et tristement remarquer en laissant le pouvoir d'achat être mis à mal par la hausse des carburants. C'est Monsieur Castex qui s'est fait remarquer en se faisant le porte parole de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron pour 2022. Ma réponse, elle a été aussi logique que finalement leur méthode, c'est-à-dire se retrouver à poil, parce que les poches des Français sont vides. On est le pays le plus taxé au monde, il ne faut pas l'oublier. On est pris à la gorge, il y a plus de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Depuis 3 ans, il y a une précarité sans nom, aucune question n'a été réellement apportée. Donc, à poil pour à poil, à un moment donné, il faut utiliser les moyens que l'on a pour
l'entendre. Et bien justement, parlons-en, Thierry Paul Valette, vous qui êtes gilet jaune, chèque de 100 euros, ça a été annoncé hier par le Premier ministre Jean Castex, 100 euros, et vous avez décidé d'être nu dans une station-service pour répondre justement à Jean Castex, à Emmanuel Macron, et vous dites dans ce carton, dans ce panneau, merci Macron, 100 euros. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Bah, voilà, c'est pas compliqué. Nous, on attendait quoi, comme beaucoup de millions de Français, un gel immédiat des carburants. On attendait une baisse des taxes. Et finalement, on attendait aussi une réponse immédiate. La réponse, elle va pas être immédiate. Elle va être au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Donc, d'ici là, les Français, débrouillez-vous. Par ailleurs, elle va pas concerner tout le monde. Il y aura beaucoup de laissés pour compte.
Donc, pour quelle raison Thierry Paul Valette apparaître entièrement nu avec ce carton, justement ce panneau qui cachait les parties intimes avec cette inscription?
Les Français n'ont plus rien. Leurs poches, elles sont vides. Il y en a qui n'arrivent plus à boucler fin de mois. C'est même le Premier ministre qui l'a répété hier sur le plateau du JT. Les Français ne bouclent plus leur fin de mois. Leurs poches sont vides. Et on continue de les racketter. Donc on termine tout nu. C'est comme ça, malheureusement. C'est ça, la réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau, qui perdent leur logement, qui perdent leur emploi, qui perdent leur travail, qui se suicident, qui terminent à la rue. Ils sont à poil, ils sont nus.
Donc vous dites finalement, la seule réponse, c'est quoi? C'est 100 euros? Et vous dites, elle est belle la France, 100 euros. Hein. C'est une enfumade. Vous dites, c'est une enfumade.
Mais bien évidemment, rappelez-vous le grand débat d'Emmanuel Macron. Toutes les belles paroles, elles n'ont jamais été tenues. Les 17 milliards pour les gilets jaunes, ça a été un tour de passe-passe sans précédent. En parlant de l'indexation des retraites, on peut en discuter si vous voulez dans une prochaine émission. Mais la réalité, elle est là. Et alors quand M. Castex vient nous expliquer qu'Emmanuel Macron est le président du pouvoir d'achat, moi j'appelle plutôt un président de la mascarade. Oui. Voilà, c'est un président de perlimpinpin. La réalité, il est là. C'est un président hors sol qui est là pour favoriser une certaine élite et malheureusement qui laisse pour compte beaucoup de concitoyens. Et ça, c'est inadmissible.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Vous dites c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement alors en dehors de cette action coopération symbolique que vous avez effectuée?
Voilà, un happening non violent qui était dans le symbole pour interpeller, parce qu'on a quand même d'autres moyens, d'autres leviers que être toujours le samedi à tourner. On peut être dans des actions symboliques, des happenings, etc., etc. Voilà, la preuve, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut faire, il y a l'élection présidentielle qui va être dans les mois à venir.
Oui.
Il faut être un acteur majeur, il faut être présent, il faut interpeller les politiques, les députés, le président, les ministres, tous ceux et celles qui se présentent à l'élection présidentielle. Il faut être porte de proposition. C'est quelque chose d'important. Parce que, au travers des Gilets jaunes, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui en ont marre. C'est la France du bas, c'est la France de la ruralité, c'est la France des campagnes. Voilà, c'est la France qui travaille aussi, il faut le rappeler. C'est aussi des gens qui travaillent.
Les gens qui travaillent, justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ils vous écoutent partout en France. Vous, Gilets jaunes, Thierry-Paul Valette.
Moi, j'ai envie de leur dire, ne baissez pas les bras, il faut garder espoir. C'est très compliqué, on sort d'une crise sanitaire sans précédent. On a des difficultés, ils ont des difficultés. Donc, il faut quand même tenir coûte que coûte. On a les élections dans 6 mois, on peut voter. Voilà, le taux d'abstention, il est énorme. Mais déjà, il faut croire déjà dans le levier démocratique qu'est le vote. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il faut continuer d'être heureux, il faut continuer d'avancer, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se démoraliser, il ne faut pas que la France devienne un pays voilà, où tout le monde a besoin d'aller faire une psychothérapie collective, parce que ça, c'est plus au gouvernement d'aller faire une psychothérapie collective, j'aurais envie de vous dire. Et je vais vous dire une dernière chose. Moi, quand je vois, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, une femme seule, isolée, avec 3 enfants, qui gagnera 2100 euros, eh ben, elle n'aura même pas ses 100 ouais. euros. Elle est laissée pour compte. C'est terrible, vous voyez.
Eh bien, justement, Thierry-Paul Valette, alors, vous dites que c'est une enfumade. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Jean Castex et à Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, face à cette hausse du carburant à la pompe?
Il faut prendre conscience des enjeux, de la situation. Quand on a M. Castex qui vient dire, vous savez...
Il faut faire quoi, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors?
Il faut un gel immédiat des carburants. C'est nécessaire. Il faut aussi baisser la taxe sur le carburant. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas priver les Français de leur outil de travail. Il faut la voiture. Parce qu'on demande une politique aussi, une ère qui est très compliquée, parce qu'on nous explique qu'il ne faut, il faut surtout pas polluer. Il y a toute la partie écologie. On est à la croisée des chemins qui est compliquée pour beaucoup de monde, pour le politique comme pour le citoyen. Mais j'ai envie de dire, le citoyen, lui, il ne vit pas comme vit le politique. C'est complètement deux mondes différents. Donc, moi, je suis un citoyen, je reste un citoyen, je défendrai les citoyens et je défendrai leur pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive. Maintenant, le président de la République, il n'a pas à nous prendre en otage de la problématique des carburants pour faire campagne. Tenez, 100 euros, on achète des votes pour 2022, c'est hors de question, c'est irresponsable.
D'ailleurs, on peut aller voir votre vidéo sur vos réseaux sociaux, Thierry-Paul Valette, tout simplement. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Thierry-Paul Valette.
Bah, merci à vous, mais j'ai quand même un petit mot, mon cher Adil.
Allez-y.
Pour la radio et pour les auditeurs.
Allez-y.
Vous voyez, c'est avec des comportements comme ça qu'ont actuellement nos responsables politiques, nos dirigeants, qu'il y a une montée de l'extrême droite, qu'il y a une montée des gens comme Zemmour. Et on voit le drame que ça fait. Mmh. Voilà, ça c'est important de le dire.
Mais vous reviendrez, mon cher Thierry-Paul Valette, vous reviendrez ici en direct.
Bien sûr, mon cher Adil, parce que ça, c'est important. Ça, il faut le dénoncer, il faut en parler. Et je trouve qu'il n'y a pas une levée de bouclier suffisamment importante par rapport au cas de Zemmour. Ça me dérange. Ça me pose problème.
Figure emblématique des Gilets jaunes, Thierry-Paul Valette. Merci d'avoir été avec nous, justement, pour parler de ce chèque de 100 euros. Merci, Thierry-Paul Valette, et au plaisir, à bientôt.
Merci, Adil.
19h28, je vais présenter, avant de retrouver le Quoi de Neuf, Nadir Kaya, bonjour.
Bonjour, Adil, bonjour à tous.
Président de Banlieue Plus, comment ça va, mon cher Nadir?
Très bien.
Tout va bien?
Ça va.
Ça va. Bon, pourquoi?
Ça m'a fait plaisir ce que j'ai pu entendre là.
Par Thierry-Paul Valette.
Ouais,
vous le connaissez?
Le nom me dit rien, il faut que je regarde.
Médiatiquement, il est connu.
L'image, mais son propos, il est clair. L'individu a l'air vaillant. Il est dynamique, positif. Il est combatif.
Surtout.
Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réussir à être aujourd'hui pour faire face à ceux qui ne comprennent pas la réalité. Et il l'a très bien dit. Et puis, il faut continuer à inciter les gens. Il faut que les Français se réveillent. Il faut arrêter d'accepter cette politique qui est menée par des énarques, par des banquiers, qui est complètement...
on va en parler, justement.
Qui n'a rien à voir avec
la réalité de la majorité des Français. Ça y est, vous êtes lancé. On va en parler tout à l'heure. Je vais présenter Jean-Claude Flichy-Caya, chercheur à l'IPS. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va, merci.
Bon, ben messieurs, je vous retrouve tout de suite dans une poignée de minutes, juste après le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
C'est avec Michel Thau. Bonsoir, mon cher Michel.
Oui, bonsoir.
Le patron de l'Opinion Internationale. Vous êtes éditorialiste, mais également aussi, donc allez jeter un œil, Opinion Internationale. Vous avez décidé ce soir de nous parler d'un sujet, évidemment, qui concerne tout le monde. C'est celui de, eh bien, du professeur Raoult et son ouvrage. Je vous écoute, mon cher Michel.
Alors, effectivement, je voudrais en fait, d'abord et avant tout, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure,
oui,
dire que on est peut-être malheureusement à la veille d'une nouvelle vague épidémique.
Ah, alors, mais alors, vous voulez plomber l'ambiance, vous, ça y est.
Eh ouais, non, malheureusement, oh là, mais non, on va finir sur un accent positif, vous allez voir. Oui. Mais non, il y a une vague épidémique qui est importante, qui pour l'instant ne touche pas la France et le sud de l'Europe, mais qui est quand même importante. Le ministre de la Santé en Belgique a dit on est dans la quatrième vague, ça y est, on y est. Au Royaume-Uni, il y a une très forte vague épidémique qui a repris. En Russie, c'est l'hécatombe. En Bulgarie, en Roumanie. Je salue d'ailleurs, parce que moi je suis partisan de ce genre de mesures, le Royaume du Maroc vient de suspendre les vols directs sur le territoire marocain en provenance d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Russie. Et ils ne le font pas pour rien, c'est parce que malheureusement il y a de nouveau beaucoup de Covid dans ces pays-là. Donc il faut être vigilant. Heureusement, on n'est pas encore trop concerné en France. Mais
ça arrive, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Et avec l'ouverture des frontières, avec la liberté de circulation, je pense que les autorités devraient être plus vigilantes et alerter les Français en disant il faut continuer à porter des masques, il faut continuer à porter le pass sanitaire, ce à quoi moi je suis favorable. Et en même temps, j'ai envie de leur dire, pour rester vigilant, une des manières, c'est peut-être de lire le dernier livre du professeur Didier Raoult, qui vient de sortir chez Michel Lafon, au-delà de l'affaire de la chloroquine, parce que moi j'ai toujours défendu l'idée d'une pluralité de solutions pour gérer la crise. Je suis un peu sur la ligne du professeur Raoult, je le dis clairement, qui dit il faut que les personnes les plus vulnérables soient vaccinées. Il est pour la vaccination des personnes les plus vulnérables. Et je note qu'en France, il y a encore 15% des personnes âgées de plus de 85 ans. Il y a encore une bonne partie des personnes qui ont des facteurs de comorbidité, le surpoids, de la tension, d'autres maladies, qui ne sont pas encore vaccinées. Et le gouvernement ne fait pas assez d'efforts de pédagogie en la matière. Et donc je pense que on n'a pas encore protégé tous nos concitoyens avec le vaccin. Mais le vaccin ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir permettre aux médecins, comme cela a été empêché pendant des mois et des mois, de prescrire, si le juge nécessaire, de la chloroquine, ce que d'ailleurs beaucoup de médecins font. La réalité, c'est que beaucoup de médecins le font. Mais je pense surtout que la lecture du professeur Raoult, qui est le plus grand épidémiologiste français et de très très loin, est quelque part une bonne protection pour essayer de comprendre à la fois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans notre pays. Mais je voulais, en fait, à travers l'apparition de ce livre du professeur Raoult, dire quand même à nos concitoyens et aux auditeurs de Beurre FM que je salue, attention, restons vigilants. En ce moment,
restons vigilants, ça veut dire quoi? Maintenir le masque, comme
se laver les mains, mettre du gel à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort d'un lieu public où il y a beaucoup de passages.
Distanciation sociale.
Porter le masque. Vous savez, porter le masque et se laver les mains.
J'ai compris quand on est vacciné.
Mais bien sûr, évidemment, après quand on est vacciné. Parce qu'en fait, si vous voulez, la vaccination ne garantit pas que l'on ne va pas transmettre ou qu'une personne qui a été vaccinée ne transmet pas. La principale protection du vaccin, c'est contre les formes graves de la maladie. Mais quelqu'un qui est vacciné peut transmettre le Covid à une personne fragile qui est en surpoids, à sa grand-mère ou à son grand-père. Et donc, si vous voulez, pour éviter cela, c'est pas que le vaccin, c'est de se laver les mains, c'est de porter le masque, de rester encore vigilant vis-à-vis de son prochain. Bref, c'est de respecter les règles d'hygiène qui sont la condition dans ce monde très libéral où tout le monde circule et où on est de plus en plus nombreux. Et ben, c'est la condition pour vivre normalement. Et donc, si la sortie du livre du professeur Raoult est quand même une sorte d'astérix national, là, il y a un astérix qui vient de sortir que je vous invite tous à lire. Je trouve que professeur Raoult, il a un petit peu des allures d'astérix national. Bah, notre astérix national, la lecture de ce bouquin, c'est aussi une manière de rester vigilant et de dire, on n'est pas totalement sorti de la crise, malheureusement.
Merci pour ce billet d'humeur, mon cher Michel Taube. Je le rappelle, vous êtes le patron fondateur d'Opinion Internationale et par ailleurs éditorialiste. Merci, mon cher Michel.
Merci et bonne soirée à vous et aux auditeurs de Beurre FM.
À vendredi, sans faute.
Merci.
Semaine prochaine, bon week-end.
Bon week-end, merci.
À bientôt, on va marquer la pause pub et on se retrouve avec Nadir Kaya, justement, et Jean-Claude Fisticaya pour parler de la hausse des prix de l'énergie, des carburants et de tout le reste avec ce chèque de 100 euros indemnité inflation. On en parle. Ne bougez surtout pas, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
19h39 précisément, c'est la dernière ligne droite, c'est parti, le face-à-face.
Les informer, le face-à-face.
Le face-à-face avec Jean-Claude Fisticaya et Nadir Kaya. Messieurs, indemnité inflation, Jean Castex a annoncé donc une aide de 100 euros pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ça suffit, c'est de l'enfumage, comme dit Thierry-Paul Valette, c'est du foutage de gueule, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez d'autres termes, évidemment, que vous posez, en tout cas, sur ce fameux chèque de 100 euros. Nadir Kaya.
Ah moi, je vais commencer par une note humoristique, parce que j'ai vu une vidéo qui m'a rappelé un petit peu ça. Comme disait un homme politique multirécidiviste qui s'est fait condamner plusieurs fois, moi, j'ai juste envie de dire quelle indignité. Voilà, quelle indignité, foutage de gueule, prendre les Français pour des cons, et puis ils ont raison, quelque part, on est cons parce qu'on l'accepte. Les 100 euros, bien sûr, c'est du foutage de gueule. S'il fallait réagir, en plus, ils parlent d'indemnité. Donc, indemnité veut dire, quelque part, réparer quelque chose. Donc, ils ont merdé quelque part. Donc là, ils veulent réparer à travers ce 100 euros. Après, moi, je rentre même pas dans le débat, c'est suffisant, c'est pas suffisant, c'est du foutage de gueule. C'est pas suffisant. Ce qu'il aurait fallu faire, tout en sachant que le carburant est taxé à 60%, déjà. Donc, déjà, à partir de là, on comprend un peu ce qu'il y a derrière.
Moi, j'ai vu qu'il y a une flambée des tarifs.
Non, et puis j'ai vu une personne qui a rappelé des choses qui peuvent paraître évidentes quand on les entend d'une autre personne, notamment sur l'acheminement du pétrole. Une fois qu'il sort des puits, qu'il est dans les bateaux, et le temps qu'il arrive là, il est vendu, revendu de je ne sais pas combien de fois. Donc à un moment donné, il faut agir à ce niveau-là. Là, c'est fini, on peut plus agir à ce niveau-là. Même le gouvernement, toi-même, tu le dis, il y a encore une flambée, ça va continuer. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place par rapport à ce type d'événement, c'est-à-dire cette possibilité qu'il y ait parfois des augmentations tellement importantes qu'il faut prendre une mesure pour stopper tout de suite. Et je crois que Macron l'avait promis quand il y avait les gilets jaunes, et c'est ce qui avait fait sortir les gilets jaunes au départ, c'est aussi ça. Donc, malheureusement, les gens ont souffert, il y a eu de la violence, de la répression, il y a eu l'histoire du Covid.
Donc le sujet est explosif.
Il est explosif.
Parce qu'il touche clairement le quotidien de la population.
Oui, mais bien sûr. C'est pour ça que c'est violent. Et puis, c'est indigne de se foutre de la gueule des Français en leur disant, je vous donne un chèque de 100 euros et fermez votre gueule. Non, non, non. Il faut aller au fond de l'affaire. Il faut plus qu'on retrouve ce genre de situation. On a tous besoin de se déplacer. Donc, à un moment donné, face à cette situation, le gouvernement aurait dû déjà anticiper depuis la crise des Gilets jaunes. Et là, on voit qu'il l'a pas fait.
Bon, on va écouter justement Jean-Claude Fisticaya. Qu'est-ce que vous dites?
Ouais, c'est une mesure tardive, il l'a dit d'ailleurs, mais pas tardive parce qu'il a une inflation du carburant. C'est parce qu'il n'a pas traité comme avant lui Hollande, comme avant lui Sarkozy, comme avant lui Chirac, qui avait lu donc l'étude sociologique sur les fractures sociales. Et depuis, c'est un amoncellement. Donc aujourd'hui, il est arrivé, en 2017, il est arrivé avec une vision à nouveau monde. Il peut pas avoir un nouveau monde sans un traitement, s'ils veulent libéral. Ils peuvent, moi, je suis assez libéral, mais justice sociale avec, c'est-à-dire Adam Smith. C'est-à-dire, on peut pas être libéral sans la justice sociale. Si on est tout de suite
Ultra, oh, mais qu'est-ce qu'on fait face à la... Regardez, il y a une flambée partout. Attends, électricité flambée, gaz flambée.
Juste, je finis.
Carburant flambée.
Juste, je finis. Son calcul est... Son calcul, le calcul de Castex hier est faux. C'est-à-dire que ça n'a pas augmenté de 9 centimes, ça a augmenté de 30 à 20 à, de 20 à 30 centimes.
C'est
donc il fallait, si on compresse, si on cumule toutes les dépenses, et notamment pour tous les publics les plus attaqués par une question sociale qui est sous-traitée, il fallait 300 euros pour que ça soit une mesure au minimum digne.
Et non pas 100.
Mais les 300 euros ne suffisaient pas. Il faut que ça soit accompagné sans attendre la campagne électorale. Il fallait que ça soit accompagné par une vision d'ensemble et de questions sociales et économiques. Mais en plus, faire la pression sur Total et sur d'autres multinationales, parce que le pouvoir va pouvoir faire quelque chose avec notre argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable, parce que les 100 euros, c'est quand même une redistribution des impôts, mais il y a aussi le monde économique. On paye trois fois l'impôt, les 100 euros qui sont redistribués, et Total et autres, qui sont financés en partie par nos impôts.
Donc 100 euros, vous dites quoi, vous? 100 euros, vous dites quoi? 100 euros, vous dites quoi? Foutage de gueule, comme Nadir Kaya, pardon?
Oui, on peut le dire, foutage de gueule, mesure pas digne.
En fumade, comme dit Thierry Paul Valède.
Oui, c'est pas une mesure politique. C'est pas une mesure économique.
J'aimerais aussi entendre nos auditeurs 01 53 48 3000. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette indemnité de 100 euros?
La France, mais qui concerne l'Union européenne.
On l'avait avec l'Angleterre aussi.
Parce que la transition écologique, elle va coûter. Parce qu'il est important aussi, j'espère que les Verts vont le dire, ça va coûter de l'argent. C'est-à-dire que non seulement tu payes plus, mais tu pollues plus.
Alors,
D'avoir un carburant plus cher, tu pollues.
01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Je voudrais vous entendre aussi nous dire, est-ce que vous pensez que c'est de l'enfumade, du foutage de gueule, c'est 100 euros proposés par Jean Castex, le Premier ministre, ou est-ce que ça suffit? 01 53 48 3000. Messieurs, qu'est-ce que doit faire le gouvernement face à cela pour éviter que cela devienne explosif?
Non, mais on l'a dit, et puis je crois que ça a été rappelé, on est dans la réaction. Ce gouvernement est malheureusement souvent dans la réaction.
Ouais.
Il n'est pas dans l'anticipation. Il est censé faire de la politique autrement, il est censé réfléchir autrement, il est censé donner de nouvelles bases autrement pour qu'on puisse aujourd'hui faire face aux défis et surtout à tout ce qui n'a pas été réglé en amont, c'est-à-dire cette façon de faire de la politique. On le voit aujourd'hui, on a parlé d'inflation, on voit que la situation est dangereuse aussi pour le gouvernement parce que les gilets jaunes peuvent repartir, même si moi je trouve que c'est quand même assez difficile à repartir.
C'est un peu le cas dans les ronds-points, hein. Certains sont là. Hein.
Oui, mais je pense que ça devrait être encore plus important, là c'est plus possible. À un moment donné, Macron qui avait promis un monde meilleur et une autre façon de faire de la politique, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il fait comme les autres, il nous fait supporter à nous ce que son gouvernement n'a pas été capable de gérer ou d'anticiper. Et ça c'est pas acceptable, surtout quand on parle de retribution, les 100 euros c'est notre argent. Donc quelque part, on va le payer encore.
Il est urgent de quoi 70%
des retraités sont concernés par les 100 euros. Ça veut tout dire sur quel est le type et le petit niveau de retraite.
Non. Et puis dépasser les 2100 euros, les gens ne sont pas indemnisés.
Voilà, la plus grande partie
donc ceux-là vont être encore pénalisés.
La plus grande partie des étudiants vont être concernés par les 100 euros. Et on peut aller plus loin sur 70% des personnes qui vivent, même 80% des personnes qui vivent dans les milieux ruraux.
Sûr, ouais.
Parce que, sans compter ceux qui comptent la terre, alors ils en ont besoin du
et puis les déplacements dans les
déplacements.
Ouais, dans les
donc, campagnes. Il est urgent de calmer le jeu.
Donc c'est
une urgence.
Donc ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit encore que c'est la politique de la rigueur, mais sauf que la politique de la rigueur et du serrage de ceinture, ben la population n'a plus assez de trous pour serrer la ceinture. Donc il va falloir
Si je peux me permettre, il faut rappeler un truc en termes d'évidence. La France ne produit pas de pétrole, donc elle sera toujours dépendante du marché et de cette spéculation aussi.
Indirectement aussi, par Total et autres.
Sont des intervenants, mais c'est Le pétrole ne vient pas des profondeurs de la France.
Ah, oui,
on va le chercher ailleurs.
Certes,
eux, ce sont des exploitants.
Certes, mais l'impact sur tout le pétrole qui est en Afrique, par exemple, il est majoré par indirectement le gouvernement français qui se sont succédés. Et ce qui est offshore,
ils n'ont pas la mainmise. La mainmise aujourd'hui,
ils ont la mainmise.
Ce sont les pays, je crois que c'est l'OPEP, qui régule aussi. Donc on dépend d'eux à ce niveau-là. Donc c'est très difficile. C'est pour ça que je disais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut revoir cette façon de faire de la politique et éventuellement, bien sûr, en amont et de revoir pour prévoir d'éventuelles augmentations. Parce que on parle de changement d'écologie, donc il va falloir à un moment donné remplacer certaines choses ou alors ça va s'y avoir un coût, un impact. Mais ça, faut commencer à réfléchir. Il y a déjà des gens qui réfléchissent là-dessus. Mais là, malheureusement, je pense que Macron et puis on a en fait le quinquennat, donc c'est foutu. Donc les 100 euros qu'il les donne. Entre guillemets, c'est très bien, mais c'est du foutage de gueule. Oui, ça va rien régler.
Certains vont dire que c'est déjà pas mal, parce que quand t'es pris à la gorge, tu prends tes 100 euros. Mais pour avoir véritablement une vie digne, tous les économistes s'accordent à dire qu'il fallait au minimum 300 euros.
300 euros. Bon. Écoutez, vous nous dites ce que vous en pensez au 01 53 48 3000. Je vous attends. Est-ce qu'il fallait plus? Ou est-ce que vous vous contentez des 100
euros? Entre 200 et 300 euros.
Deuxième sujet, c'est celui qui nous concerne tous, c'est le ballon d'or.
Le chauffage et autres. Faut pas oublier que ça arrive.
Oui, bien sûr.
Ça arrive au moment où certains sont chauffés au fioul.
Vous avez raison.
Ça arrive
au l'électricité où tout a augmenté d'un coup. Tout a augmenté, hein. Tout a augmenté.
Faut pas acheter des t-shirts.
Allez, on va parler de Karim Benzema, messieurs, pour finir cette émission. Le jugement lié à la sextape peut-il compromettre les chances justement d'une belle victoire de Karim Benzema concernant le ballon d'or? Est-ce que l'affaire de la sextape, la sextape de Mathieu Valbuena, est-ce qu'elle risque d'entacher Karim Benzema?
J'ai l'impression que les votes sont déjà faits.
Ah oui.
Tout le monde avait en tête qu'il y allait avoir un procès. Ceux qui votent vont sûrement s'attacher à son talent et ses performances hors normes et aux joueurs extraordinaires sur le plan footballistique. Après, cette histoire est tellement sordide que je préfère ne pas en dire mot. Mais sur le côté talentueux, sur le côté des performances, il fait partie du gratin du football, de l'histoire du football, pas seulement de l'histoire contemporaine, mais de l'histoire du football avec un grand H. Donc, je crois savoir que les votes sont déjà effectués, mais je ne suis pas sûr. Mais si on s'attache vraiment à son talent et ses performances sportives, il est dans les deux, trois premiers. Ça m'étonnerait que ce ballon d'or lui échappe.
Ah oui.
J'espère que c'est pas cette histoire.
Il peut y avoir une surprise.
J'espère que c'est pas cette histoire.
Il peut y avoir un ballon d'or surprise.
C'est pas cette histoire qui va bousculer la vision footballistique. Après, la justice fera son job, hein. On peut pas transformer les citoyens en procureurs. Il y a une justice. Cette histoire est sordide. Je préfère ne pas en dire mot. Mais en tout cas, sur le point de vue footballistique.
Alors, Nadir Kayes, justement, quand on sait, votre micro n'est pas allumé. Attention, le micro n'est pas allumé. Le micro n'est pas allumé. Cher ami, qu'est-ce qui se passe? Allez-y.
Je le rejoins totalement. Là, le ballon d'or, c'est les performances footballistiques qu'on va prendre en compte. L'aspect juridique peut éventuellement gêner certaines personnes sur ce débat-là.
Oui.
Mais concrètement, les votes vont se faire sur les résultats, sur le talent des différentes personnes qui sont éligibles et qui sont potentiellement capables d'avoir ce ballon d'or. Donc je pense que
là,
les choses sont déjà faites à ce niveau-là et que si il est censé être le ballon d'or, bah, il le sera au détriment d'une décision juridique bonne ou mauvaise pour lui, tout simplement.
Oui, mais attendez, l'affaire Sextape risque d'entacher.
Oui, parce qu'il y a un côté éthique des choses. Maintenant, il y a eu un réquisitoire. Il va avoir un jugement. Il y a un délibéré.
Bien sûr.
Il y a un côté éthique. C'est vrai qu'on est footballeur et notamment à ce niveau-là, il y a le côté éthique, même que ça soit dans
le club. En tout cas, il remplit toutes les cases. Il remplit la performance, il remplit la case du joueur.
Oui, mais alors c'est la case éthique.
Les performances, le nombre de buts.
C'est la case éthique qui va peut-être lui faire.
Tout ce qu'il a pu faire, la durée, parce que c'est aussi la durée.
Il y a que la case éthique qui peut lui faire barrage, ou peut-être, si on regarde le football, Lewandowski, et je vois pas un autre concurrent aussi performant cette année.
Nadir Kaya, vous disiez quoi?
Non, moi c'est sûr. Après, si on veut regarder l'aspect justice par rapport à ce qui lui est reproché et ce que j'ai pu lire ou entendre ici et là, je pense que juridiquement il y a rien sur le fait de pouvoir le condamner.
Ouais.
Je pense que c'est plus d'un point de vue moral par rapport au jeu qu'il a pu avoir un peu bizarre vis-à-vis de son ami et de Van Bommel. Et je pense que c'est juste sur cet aspect moral qu'on peut lui reprocher ses positions et ses propos. Après, la justice, moi, je pense qu'elle ne va pas le condamner parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour croire qu'il a pu participer de près ou de loin à un éventuel chantage. Je pense qu'il a été maladroit dans ses propos. Il a été un petit peu ambigu, c'est ce qui a été reproché. Mais après, je pense pas que ça va rentrer en compte sur le résultat final du Ballon d'Or. Je pense que si effectivement on regarde ces statistiques depuis un certain nombre d'années, depuis ces dernières années, je pense qu'il mérite effectivement le Ballon d'Or pour l'ensemble de son œuvre.
Et puis, Jean-Claude Fils, quand tu votes, si on devait voter tous les trois, la décision de justice n'est pas encore donnée.
Non.
Donc on ne sait pas s'il va être coupable ou non coupable. Donc nous, on n'est pas des hommes de justice, et puis on n'est pas chargé, même si on était, on n'est pas chargé de ce procès. Mmh. Donc admettons qu'il soit disculpé, non lieu. Et si,
sauf que le lauréat est dévoilé.
Non, oui, mais justement.
Fin novembre, à Paris.
C'est pour ça. Si un des votants le prend en compte, alors qu'il est disculpé 15 jours après, donc, ils sont obligés de s'attacher, à la performance sportive, parce que la justice n'a pas encore dit, n'a pas encore donné sa décision de justice. Finale, oui.
Voilà. Merci à Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Au plaisir, mon cher Nadir.
Également.
Et je vous souhaite bon week-end. On a fini quand même sur
tout
une belle
pareil,
note.
Tout pareil. Oui, très bien.
Oui, bah oui, le football, foot, c'est
gay, c'est joyeux.
C'est gay, c'est joyeux.
Ça joue bien.
Jean-Claude Filsikaya, chercheur à l'IPSE. Au plaisir, bon
au
week-end.
Plaisir,
aussi.
Merci.
À très vite,
plaisir,
messieurs. À la réalisation, Mr. Joe et Mr. Yanis Giovanni, justement. On a le luxe d'avoir deux réals. Aïe, aïe, aïe. On a les moyens, on a mis les moyens.
C'est la jeunesse.
On a mis les moyens à la Real, hein. On a les gros moyens maintenant. Oui, de nouveaux sièges, justement, beaucoup se sont plaints aussi. Bravo à la direction.
Quel confort.
Non, quel confort, n'est-ce pas ?
L'émission ?
Pardon ?
On continue l'émission ?
On continue l'émission jusqu'à minuit.
On a le confort maintenant.
Ah oui, on a le confort. Merci à la direction. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, excellentes vacances pour celles qui sont en vacances. Quant à moi, eh bien nous ne sommes pas en vacances. À lundi prochain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien, c'est Time Sport et Bilal Nedman de 20h à 21h.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.